Radio Prague, les informations.
Un jour de deuil national sera proclamé en République tchèque. Un premier duel électoral télévisé entre Jiří Paroubek et Petr Nečas a eu lieu ce dimanche. 60 ans se seront écoulés depuis la liquidation des ordres religieux tchèques. La République tchèque rendra hommage aux victimes du crash de l'avion du président polonais Lech Kaczyński par un jour de deuil national. Le président Václav Klaus et le cabinet de Jan Fischer le proclameront le jour des funérailles qui n'a pas encore été officiellement déterminé. Une messe qui sera consacrée aux victimes sera célébrée vendredi prochain dans la cathédrale Saint-Guy par l'archevêque Dominik Duka en présence des dirigeants tchèques et de l'ambassadeur de la Pologne à Prague, Jan Pastwa. Jiří Paroubek, leader du Parti social-démocrate, et Petr Nečas, chef du Parti civique-démocrate, principale formation de droite du pays, ont été les protagonistes d'un débat diffusé ce dimanche à midi par la télévision tchèque. C'était le premier dans la série des duels à attendre entre les deux grands rivaux avant les prochaines élections législatives qui auront lieu le 28 et 29 mai 2010. Comme prévu, des questions d'ordre économique et financier ont constitué leur principal point de discorde. La semaine prochaine, 60 ans se seront écoulés depuis l'anéantissement des ordres religieux tchèques. Le 30 janvier 1950, le Parti communiste tchécoslovaque a adopté le projet de liquidation des ordres religieux des monastères et couvents. En vertu de ces décisions, dans la nuit du 13 au 14 avril 1950, la police communiste et les milices populaires ont pénétré dans 7 monastères pour emmener par la force les religieux dans des camps d'internement. Cette opération s'appelait Action K. 2 interventions ont encore suivi. La troisième phase réalisée en automne étant concentrée sur la liquidation des couvents. Le nouveau primat tchèque Dominik Duka a célébré ce dimanche une messe à l'église Saint-Gilles à Prague en présence de près de 200 personnes et du nonce apostolique Diego Causero. La veille, l'archevêque Duka a été officiellement intronisé dans la cathédrale Saint-Guy. Les conditions pour la pratique du ski alpin sont toujours bonnes en montagne dans certaines localités en République tchèque. À partir de la semaine prochaine, c'est pourtant seulement la station de Spindlerhofen dans le nord de la Bohême qui laisse les pistes ouvertes tandis que les autres ferment après avoir accueilli les derniers skieurs en cette saison pendant ce week-end. La patineuse tchèque Martina Sablíková, double championne olympique, s'est vue décerner un Oscar de patinage, cette plus haute distinction dans le domaine du patinage qui est attribuée par un club d'Oslo. Porte le nom de Oscar Mathiesen, légendaire sportif norvégien. Météo, ce lundi, le ciel demeurera couvert, des précipitations vont affecter l'ensemble du pays. Les températures ne dépasseront pas dans la journée 10 degrés. C'est le journal présenté par Alena Gabeltova. Ah!
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, dans le cadre du festival français Bonjour Brno qui se déroule dans la métropole morave jusqu'au 27 avril, l'écrivain français Didier Deninck était de passage en République tchèque. Grande figure du roman policier français, écrivain engagé, il a publié en 1994 un roman intitulé Un château en Bohême. Cet ouvrage met en scène un journaliste, François Novacek, qui découvre le pays de son père après la révolution de velours lors d'une enquête. Dans la première partie de cette rencontre, Didier Deninck nous avait raconté comment c'est un voyage surréaliste en Tchécoslovaquie en février 1989 qui l'avait inspiré pour son roman. Rappel des faits. Invité à participer à un congrès d'écrivains, il se rend à Prague alors qu'il vient d'apprendre l'arrestation et l'incarcération de Václav Havel. Avec quelques collègues, il décide de protester publiquement. Plus tard, tous les écrivains étant rassemblés au château de Dobříš, hors de Prague, Deninck et quelques collègues continuent de jouer les trublions. On écoute la suite de cet entretien.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comment à la fin, la tension était vraiment à son paroxysme, comme ça. Et moi, je suis intervenu une dernière fois, au bout de 5 jours à peu près, je suis intervenu une dernière fois en disant exactement ce que je pensais de l'attitude des gens qui étaient là. Avec un ami, Jean-François, on a commencé à visiter tout le château d'Aubrisse, parce qu'une partie du château nous était interdite, donc on n'avait pas le droit d'aller à tel endroit. Et on a ouvert toutes les portes, on avait regardé, on visitait, et d'un seul coup, on est tombé sur une salle où il y avait tout le système d'écoute du château. Et là, on a vu et puis il y avait 2-3 personnes dans cette petite pièce comme ça.
Que vous avez surprise d'écouter, oui. Et donc du coup, ça veut dire que vos propres chambres devaient être mises sur écoute et tout.
Oui, c'était ensemble. Le système d'écoute de toutes les chambres du château, donc il y avait un système comme ça. Et heureusement que j'étais avec Jean-François, qu'on était deux, quoi, parce que sinon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je n'arriverais pas à croire que ça m'est véritablement arrivé. Et dans la foulée, dans les heures qui ont suivi, l'un des organisateurs de ce congrès est venu me voir. On m'a dit que je faisais mes bagages, qu'un chauffeur m'emmenait à l'aéroport et qu'il y avait une place qui avait été retenue pour moi.
C'est très gentil de vous avoir comme ça réservé une place. Donc vous avez été en gros ramené manu militari à l'aéroport,
oui,
et vous avez dû repartir.
Bon, ça s'est fait courtoisement. Hein. On m'a pas pris par le bras, on m'a pas forcé à monter. On m'a dit que c'était comme ça que ça se passait et qu'il y avait pas d'autre solution. Donc j'ai pris l'avion et je suis retourné à Paris de cette manière. Puis avant ça, on a essayé de faire en sorte que je me calme en me proposant des traductions en tchétchène, en kirghize, en roumain, en moldave.
Comment corrompre un écrivain en lui proposant des traductions de ses romans?
Et on m'a même proposé en 89 que ces traductions ne soient pas payées en roubles non convertibles, mais qu'il était possible de s'arranger pour...
Pour avoir des devises, hein.
Ouais. Non. Non, là, c'était des diamants payables à Paris, à l'ambassade.
C'est surréaliste.
J'ai l'impression de raconter... Là, c'est pareil, on a proposé la même chose à Laura Grimaldi, on lui a proposé des diamants payables par l'ambassade à Rome, ce qu'elle a refusé et tout, parce que c'est quelqu'un qui était sur les mêmes bases, quoi. J'ai l'impression de parler d'un autre monde, comme ça, et j'ai toujours l'impression que c'est du roman et que c'est pas arrivé dans la réalité, quoi. S'il y en avait pas d'autres à qui c'était arrivé, j'ai l'impression que je me croirais pas moi-même.
Bah, du coup, ça vous a servi de matière à roman, puisque finalement, en fait, Dobrzych, on le retrouve donc dans votre roman Un château en Bohème. Cette histoire de congrès également, d'écrivains, d'écoute, etc. Ça a été publié 4 ans après, hein, c'est 1994,
voilà,
donc ça a eu le temps de mûrir. Et alors, évidemment, vous avez mis en exergue une citation de Václav Havel, que je vais lire. « Le pouvoir est prisonnier de ses propres mensonges, et c'est la raison pour laquelle il doit falsifier le passé, le présent et le futur. » C'est extrait de son ouvrage « Le théâtre et le pouvoir ». C'est quelqu'un que vous admirez, évidemment, Václav Havel, par rapport aussi à votre propre réflexion sur l'histoire et le mensonge.
Voilà, et par exemple là, cette phrase-là, elle aurait pu être écrite par George Orwell, quoi. On est dans les mêmes réflexions. Oui, moi j'avais lu le théâtre, la pétition, enfin tout un tas de textes comme ça de Václav Havel, surtout le théâtre que j'ai lu. Et puis c'est la stature, c'est la manière dont quelqu'un, sans effet, sans élever la voix, sans cri, sans rien du tout, uniquement avec la stature morale. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve très très peu souvent. Par exemple, en France, on a un personnage qui incarne ça, c'est Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort. Mais le personnage, il a une sorte d'autorité naturelle, quoi. Donc c'est quelqu'un où on peut s'adresser à lui qu'en reconnaissant la valeur de sa pensée. C'est valable pour Nelson Mandela. Là, c'est pareil, il y a une autorité naturelle, c'est pareil. C'est quelqu'un dont on connaît surtout le sourire, Nelson Mandela, et puis les chemises bariolées, et un message absolument incroyable, quoi, d'une force incroyable. Et Václav Havel, c'est ça, quoi, c'est cette stature-là, quoi, qui est importante. On pourrait mettre Simone Veil aussi, des gens de genre, donc même qu'on soit d'accord ou pas avec leurs options politiques, c'est des gens qui trichent pas avec leur engagement, quoi. C'est assez curieux. Quand je suis venu écrire le livre, je suis revenu donc en 93 à Prague pour me balader, prendre des notes, ce que j'avais pas pu faire en 89.
Respirer un peu aussi l'atmosphère du lieu, voilà, autrement et sans tension.
La manière dont ça avait un petit peu comment les choses évoluaient comme ça, et c'était en 93 et tout, on voyait encore les basculements. L'ancien avait pas laissé la place, quoi. Le nouveau arrivait et l'ancien était toujours là. Donc on était dans une période de transition et c'est vraiment très intéressant. Et je me souviens, je suis arrivé de Paris, j'étais parti de Paris en voiture. Je me suis garé place Venceslas et la première chose que j'ai voulu faire, c'est retourner à la librairie, et à l'Union des écrivains, comme ça pour voir ce qu'il en était, en face du théâtre Narodny. Et sur le trottoir, j'ai croisé un homme avec une femme blonde. Et je me suis retourné, non pas sur la femme, mais parce que comment le visage de l'homme me disait quelque chose. Et quand je me suis retourné quelques mètres après, comme ça, lui aussi s'était retourné, c'était Vaclav Havel.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Hein. J'étais à Prague depuis une demi-heure. Et lui avait dû voir ma photo après ce souk que j'avais mis et tout. Il y a eu des informations qui lui ont été données. Donc il a dû se dire, tiens, je connais ce visage et moi pareil.
Vous avez été également à l'origine alors du Poulpe aussi avec
oui,
Jean-Bernard
Pouy, oui.
À l'origine. J'aimerais un petit peu en parler parce qu'on a entendu, enfin moi j'en ai entendu parler récemment à cause de cette polémique pour resituer un petit peu en fait les éditions de la Baleine, enfin l'éditeur de la Baleine a réédité un livre de François Brignaud qui était cofondateur du Front National et donc le fait de publier un milicien pendant la Deuxième Guerre mondiale voilà. Il a un passif.
Il s'embauche dans la milice nazie. Le 6 juin 44, quand il y a le débarquement des Américains sur les côtes de France, le 6 juin 44, à l'âge de 25 ans, il a pas 16 ans, il est pas et tout, à l'âge de 25 ans, il s'embauche dans la milice nazie pour combattre et tuer des résistants. Donc on a un personnage et il est jamais revenu là-dessus. Au contraire, il considère toujours aujourd'hui, à l'âge de 90 ans, que c'est un de ses principaux titres de gloire. Donc ce personnage-là a fondé le Front National, mouvement d'extrême droite avec Jean-Marie Le Pen. Ils étaient quatre, donc il est un des quatre, de la bande des quatre de Jean-Marie Le Pen. Et il a écrit des romans policiers qui sont d'une médiocrité absolue et tout. Et notre éditeur, donc de cette maison d'édition qui s'appelle La Baleine, qui a été une maison d'édition qui a été créée pour combattre le Front National. C'est ça le problème.
Oui, et puis alors le personnage du Poulpe, c'est l'antifasciste qui lutte sur tous les fronts, c'est un libertaire, un anarchiste.
Et d'un seul coup, le nouveau patron, qui a, donc un type qui a racheté ses éditions, parce que ça allait un petit peu mal financièrement et tout, donc il y a eu un repreneur, et ce repreneur publie dans une maison d'édition antifasciste un type qui revendique, qui milite et tout. Ce type est éditeur, il publie qui il veut. Mais cette maison d'édition a une histoire. Donc, il aurait dû être respectueux de l'histoire de cette maison d'édition et pas publier ce... En plus, c'est un bouquin d'une médiocrité, d'un racisme absolu, c'est à vomir.
Mais comment vous expliquez qu'il ait même pensé à publier ce roman? C'est un mystère ou c'est...
C'est un éditeur assez bizarre, c'est-à-dire qu'il a racheté cette maison d'édition et comment il a installé ses bureaux de direction à la cave, sans fenêtre, sans rien du tout, et il vit entouré de sa collection d'animaux empaillés et ses collections de flingues, de bastos, de balles et tout. Donc c'est un type assez borderline, comme on dit en Auvergne.
C'est étrange, en effet. Alors du coup, vous avez demandé à ce qu'on retire vos livres et d'autres écrivains également du catalogue. Est-ce que c'est fait?
C'est pas possible. C'est-à-dire que on a dit, nous, on veut pas cohabiter avec ce monsieur. Donc puisque maintenant la ligne de la maison d'édition, c'est ce genre de choses, donc nous, on s'en va. Rendez-nous nos contrats et on s'en va publier ailleurs. Et en fin de compte, la loi française nous interdit ça. C'est-à-dire que si on veut retirer nos contrats, il faut dédommager l'éditeur. Et si jamais on veut republier le même roman que pour lequel on l'a dédommagé, il faut lui présenter en priorité pour savoir s'il veut le republier. On est chez Kafka, là. On est, mais c'est la loi française. C'est-à-dire que moi, j'ignorais une partie du désastre que représente le statut d'auteur de romancier en France, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Poulpe a été dézingué par un facho? Et du coup, c'est terminé, il n'y aura plus de Poulpe.
Il y a Jean-Bernard Pouy donc, qui a créé le personnage comme ça. Il est en train d'essayer de réfléchir à une stratégie pour récupérer le personnage, le faire publier ailleurs et tout. Mais c'est un petit peu compliqué, là. Donc là, non, normalement, le fait d'avoir publié le fondateur du Front National dans une maison d'édition créée pour combattre le Front National, ça signe la mort de l'aventure. Hein.
Alors évidemment, il y a les classiques, Simenon en France, Chandler pour les Américains. Mais ces dernières années, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un boom vraiment du polar. On le voit dans les librairies, hein, puis il y a vraiment des espaces réservés au polar. Comment vous expliquez d'un coup cette espèce d'engouement pour le polar ? Est-ce que le polar, finalement, a un peu trouvé ses lettres de noblesse après peut-être avoir été négligé ?
Non, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que comment pendant 30 ou 40 ans, les principales écoles littéraires en France se sont défiées de la fiction. Le nouveau roman, même si des écrivains comme Claude Simon et tout, c'est des écrivains qui travaillaient le réel et la fiction, mais ça se donnait comme une défiance vis-à-vis de la fiction et une manière de la littérature d'échapper au réel. Ça a été vrai pour les groupes comme Tel Quel, Solaire, et ainsi de suite. Donc là aussi, il y avait une réflexion, il y avait toutes les théories structuralistes, mais il y a eu un éloignement de la narration et un éloignement de tout ce qui pouvait sembler débat politique à l'intérieur du roman. Et il y a un endroit de la littérature où ce désintérêt et cet éloignement n'a jamais existé, c'est dans le roman noir, dans ce qu'on appelle communément le polar. Depuis toujours, il y avait des auteurs comme Jean Amila et tout, après comme Jean-Patrick Manchette, comme Fajardi, enfin, toute une série, après ça s'est véritablement accéléré. Et donc il y a eu Pierre Michon, il nous appelle les petits soldats du noir. Comme ça, on a continué à travailler comme ça le rapport au réel. Donc il y a une sorte de filiation avec le 19e siècle, avec tout un tas d'écritures des années 30, et puis après les formes modernes que ça a pu prendre. Et je crois qu'on est, depuis une dizaine d'années, 10-15 ans à peu près, d'un seul coup, il y a eu un besoin immense pour les lecteurs de renouer avec la narration. Et d'un seul coup, beaucoup de lecteurs et beaucoup de structures se sont aperçus qu'il y avait un endroit où la narration avait continué à fonctionner. Dans le roman noir, il y a quelque chose, c'est qu'il y a eu une contamination de l'avant-garde littéraire et des thèmes extrêmement réalistes, voilà, et le rapport au politique. Donc ils se sont aperçus de ça.
C'était l'écrivain français Didier Deninx. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc, Jarka Gisubelova.
Bonjour à toutes et à tous. Le château de Bechtchov, à l'ouest de la Bohême, a reçu le prix européen du patrimoine culturel Europa Nostra pour la restauration et la valorisation de la partie haute du château, une des fractions de son vaste complexe gothique et baroque. La candidature de Bechtchov a été présentée par l'Institut national du patrimoine et la remise solennelle du prix aura lieu le 10 juin à Istanbul. En attendant, je vous invite à faire étape à Bechtchov, une petite ville située dans le triangle des villes d'eau de Karlovy Vary, Mariánské Lázně et Františkovy Lázně. La candidature présentée par Bechtchov au concours Europa Nostra comprenait, en plus d'une description détaillée des travaux de restauration du château médiéval, des projets en vue de son adaptation à de nouveaux usages, observe le châtelain de Bechtchov, Tomáš Vizovský, en précisant que l'accent a été mis sur leur mission éducative.
Nous préparons un programme baptisé « Aventure de l'histoire de la construction » qui familiarisera chaque visiteur avec les principes et les techniques de travaux de construction et qui lui apprendra à s'orienter dans l'architecture historique.
La petite ville de Betchov est dominée par la silhouette impressionnante de son château fort accroché à un éperon rocheux au-dessus de la rivière Tepla. L'aspect gothique est conservé par la tour de guet et le donjon. Une aile de communication renaissance relie le château gothique d'origine dit haut avec les constructions baroques. Fondé au début du XIVe siècle près d'une voie commerciale menant en Allemagne, le noyau gothique du château a été en 1750 élargi d'un château baroque. L'une de ces salles abrite un petit chef-d'œuvre qui attire à Betchov de nombreux visiteurs d'Europe, le reliquaire roman de Saint-Maur, créé vers 1200 en Belgique actuelle. Et amené à Betchov par ses derniers propriétaires, les ducs de Beaufort-Spontin. En raison de sa grande valeur, le reliquaire est classé juste derrière les joyaux de la couronne de Bohême et certains le comparent au reliquaire de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Le reliquaire de Saint-Maur se présente sous la forme d'une maisonnette en or. Richement sculpté et garni de pierres précieuses, il a été fabriqué sur commande de la famille aristocratique Rumigny qui a acquis au XIe siècle les reliques des trois saints morts, Timothée et Jean-Baptiste. La chasse reliquaire abritant les reliques de ces saints a été créée à l'abbaye des Bénédictins à Florennes. Après la disparition de l'abbaye lors de la Révolution française, le reliquaire a été offert au duc Alfred de Beaufort-Spontin qui l'a présenté pour la première fois en public à l'Exposition universelle de Paris en 1878 pour le ramener ensuite à Betchov où il est resté jusqu'à 1945. Contraint de quitter en hâte la Tchécoslovaquie, les ducs de Beaufort ont caché le reliquaire dans le sous-sol de la chapelle dans l'espoir de pouvoir venir un jour le retrouver. Il n'en fut rien, l'objet restait dans sa cachette pendant 40 ans. Le guide de Betchov, Andrzej Cink, a bien voulu nous raconter l'aventure de cette découverte.
En 1984, la représentation diplomatique tchécoslovaque à Vienne a reçu la visite d'un commerçant venant des États-Unis, un certain Dan Douglas. L'offre qu'il est venu faire au gouvernement tchécoslovaque était tout à fait inhabituelle. Il proposait 250 000 dollars américains en échange de l'autorisation de retirer du territoire tchécoslovaque un objet d'art qui n'avait pas un lien direct avec son histoire. Après avoir vérifié qu'il s'agissait d'une offre sérieuse, puisque Douglas avait effectué une transaction similaire en France, les autorités tchécoslovaques ont commencé à négocier d'éventuelles conditions d'exportation.
Entre-temps, une équipe de criminalistes du capitaine Marichka, qui menait depuis 25 ans ses recherches, a fini par retrouver le reliquaire en novembre 1985 sur le plancher de la chapelle de Betchov. Cette année, c'est donc le 25e anniversaire de sa découverte et le château a conçu toute une série de manifestations pour fêter cet événement. Le reliquaire de Saint-Maur est exposé dans une salle obscure, protégée par une vitrine. L'histoire vieille de 800 ans des trois saints dont il abrite la relique, Mort, Timothée et Jean-Baptiste, revit grâce au savoir-faire de l'orfèvrerie romane. La chasse longue de 138 cm, large de 42 cm et haute de 65 cm est ornée de reliefs de Jésus, des trois saints et des 12 apôtres. Le toit est décoré de boules de cristal et la beauté éclatante de l'objet est accentuée par un riche ornement en argent doré et par 500 gemmes. 2002, la République tchèque s'est vue décerner 8 Oscars européens du patrimoine culturel Europa Nostra. 6 d'entre eux ont été attribués à l'Institut national du patrimoine pour ses réalisations en matière de conservation. Comme l'observe Zdenka Kalova de cet institut, les soins apportés à l'entretien des monuments ont une longue tradition dans notre pays. Les monuments constituent la base du tourisme. C'est en quelque sorte une compensation pour la mer que notre pays ne possède pas. Ainsi, les monuments sont la principale attraction que nous pouvons offrir aux visiteurs. Parmi d'autres lauréats tchèques du prix européen du patrimoine, il y a le château de style empire Kinžvart, siège du chancelier Metternich, à l'ouest de la Bohême, ou encore le magnifique château Renaissance de Český Krumlov, au sud de la Bohême, le deuxième plus important château après le château de Prague. C'est tout sur les ondes. L'émission de Radio Prague continue sur notre site internet www.radio.cz. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons vous retrouver très prochainement à l'écoute.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.